Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de la polygamie au Mali. La polygamie est le régime de mariage le plus répandu dans notre société. Selon le code de mariage au Mali, les hommes peuvent se marier à plus d'une femme. Toutefois, la polyandrie est sévèrement punie. Cependant, on constate généralement que les femmes ne partagent pas toute l'idée de la polygamie. Nos invités pour débattre de ce sujet, Bremali Diko, sociologue, Jacaria Traoré de Clinique Demesso. C'est bien ça? Ben Chérif Djabaté, traditionnaliste, je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Notre reporter a fait un tour dans la capitale pour recueillir l'avis des Bamakois sur la question. Je vous propose de l'écouter.
Avec les anciens, c'était une bonne chose parce que ça permet de mettre une grande famille en valeur.
Dans la famille d'un homme polygame, il y a toujours des conflits. Quand les femmes ne s'entendent pas, ce n'est pas bon.
Présentement, vraiment, les choses ont changé. C'est dû maintenant aux hommes eux-mêmes. Quand tu décides de prendre une deuxième, il faut savoir prendre tes responsabilités. Pour moi, quand même, je pense que c'est ça le plus important, quoi.
Chaque homme a la possibilité de prendre plusieurs femmes. Il en a le droit. Il doit traiter ses femmes sur le même pied d'égalité. Même avec ses enfants, c'est difficile, car on a des préférences. Je suis aussi une femme. Celle qui sait prendre soin de son mari, c'est celle-là qui sera la plus aimée par son mari. Mais il ne doit pas le montrer publiquement. Elles doivent toutes bénéficier des mêmes avantages.
Alors, vous venez d'entendre ces propos des Bamakois. Nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Diabaté. Polygamie au Mali, source de problèmes ou de quiétude?
Bon, moi, je dirais qu'il faut toujours savoir contextualiser vos propos. La polygamie, par rapport à quand, à qui et comment? Parce que quand le thème ou tout sujet qu'on veut débattre dans une société, quand elle n'est pas contextualisée, on passe à côté. Parce que tu vas parler de la polygamie de 1900, or que nous sommes, au 21e siècle.
Nous aurons l'occasion de débattre de tout ça.
Non, oui. Je précise, oui. Parce que ça c'est très important.
Oui.
Et on est en train de faire ce débat-là dans la langue de Molière. Donc il y a des principes. Quand tu parles en français, donc il y a des principes.
Tout à fait.
Mais c'est pourquoi je fais d'abord une mise au point.
Allez-y.
Maintenant, la polygamie, de mon point de vue, et moi je suis un traditionaliste, et je défends les valeurs de mon pays. Bon, que tu sois Peul, Sonray, Tamashek, ou Malinké, ou Bambara, ou Senfo, moi je défends les valeurs. Et ces valeurs-là ont admis la polygamie depuis la nuit des temps, et qui a fait le bonheur du Mali. Et donc, moi, je n'ai pas vu, en tout cas, de quelque chose dans la polygamie pour dire que ça gêne la société ou que ça va contre le bon fonctionnement de la société. Parce que au début de la polygamie dans notre pays, en tout cas au Mali, le mariage, c'était entre les familles. C'était pas entre les individus. Et c'était organisé de manière à maintenir la cohésion sociale, à respecter les relations entre les familles, mais aussi à entretenir les bons rapports sociaux. Et donc, la polygamie, sur cette base-là, moi, de mon point de vue, je trouve que la polygamie, elle était une très bonne chose et elle continue à être une très bonne chose, sauf si elle se trouve entre les mains de gens qui n'ont pas compris et qui ne savent pas ce que c'est. Donc là, en ce moment, ils peuvent tituber avec.
D'accord.
Mais avec des gens comme moi, encore, qui avons été vraiment à l'ancienne école, ben nous, on va encore à la polygamie. On a 3, 4, 5 femmes, mais nous, on n'a pas de problème.
5 femmes.
Non. Et si je dis 5 femmes, ça, c'est par rapport à ceux qui vont à la mosquée et qui sont attachés au Coran.
Oui.
Et voilà. Maintenant, celui qui n'est pas attaché au Coran, Mais il peut aller à cette femme.
Mmh,
voilà. Mais s'il n'a pas de problème, mais tant mieux. Parce que c'est parce que seulement on ne veut pas de problème.
Okay. Et vous, M. Diko, votre point de vue ?
Mais écoutez, hein, la polygamie, comme n'importe quel phénomène, est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que c'est à la fois une bonne chose et puis une mauvaise chose. Ça dépend en fait de qui parle, de quel contexte le doyen Ben Chérif a parlé du contexte. Et ça dépend aussi même du lieu. Est-ce qu'on est en train d'évoquer la polygamie dans un contexte urbain ou bien dans un contexte rural? Bon, après ceci dit, hein, la polygamie de façon générale, on sait que c'est désigne en fait un régime matrimonial où une personne peut avoir plusieurs conjoints. C'est vrai que de façon un peu par abus de langage, hein, on essaie d'associer la polygamie aux hommes qui ont plusieurs femmes, mais il y a d'autres termes qui l'utilisent. Quand un homme a plusieurs femmes, on l'appelle polygynie, et quand une femme a plusieurs époux, on l'appelle polyandrie. Et donc la polygamie concerne à la fois l'homme et la femme, donc c'est juste un régime. Bon, mais je pense que votre question concerne plutôt le cas d'un homme dans notre société qui a plusieurs épouses. Ça peut être une bonne chose si, par exemple, nous sommes dans un milieu agréable, où nous avons besoin d'une main-d'œuvre abondante. Et pour avoir une main-d'œuvre abondante, une femme, par procréation, a une capacité limitée d'enfants. Et dans ces cas-là, on a besoin de plus de bras valides. Et pour cette raison, on prend plusieurs épouses pour avoir plus de personnes. Et ça, c'est un premier élément où on peut considérer que c'est une bonne chose. De ce point de vue, on regarde même dans les campagnes aussi, beaucoup de le mariage, comme il l'avait dit, unissait plusieurs clans, plusieurs tribus, plusieurs communautés. Et donc, plus on a des enfants, plus on a la chance d'échanger avec d'autres personnes. Mais au-delà, quand on parle aujourd'hui de la démographie, rien que sur le plan économique, lorsque vous faites beaucoup d'enfants et que vous avez beaucoup de personnes et que vous produisez aussi suffisamment, ben, c'est aussi un marché de consommation. Donc il y a un plan en fait, économique qu'il faut considérer parce que beaucoup de difficultés en réalité tournent aussi autour de la question de l'insécurité économique. Alors c'est une mauvaise chose lorsque c'est mal cadré. Mais de mon point de vue, tout cela dépend peut-être de deux facteurs. Le premier facteur, c'est comment le mariage lui-même est contracté. Parce que, vous savez, moi, j'ai vu des couples où c'est la première femme qui demande à son époux de prendre une deuxième femme parce qu'elle, elle est stérile, parce qu'elle, elle est malade, parce que. Et donc, ça, elle-même, elle insiste son mari à prendre une deuxième épouse. Et dans ces cas-là, c'est bienvenu. Et dans d'autres cas, on voit que ça peut être une mauvaise chose si, par exemple, le mari, lui, il n'est pas équitable entre les épouses et commence à avoir des préférences qui sont exhibées et conduit finalement, dans certains cas, à reléguer une des épouses, une troisième, une quatrième femme considérée comme étant des sortes de renégats et une femme qui est préférée en fait, à qui on donne tout. Donc tout dépend justement de comment les gens se comportent au sein des couples.
D'accord. Alors vous, M. Traoré, en tant que défenseur des droits des femmes, qu'est-ce que vous pensez de la polygamie ?
Merci Fatim. Je salue tous les auditeurs et les auditrices et téléspectateurs. Je dirais que pas de défenseur des droits des femmes, mais défenseur des droits de l'homme.
Okay. De l'homme. Non, les femmes font partie.
Oui, forcément.
Voilà.
Forcément, c'est pas l'homme en tant que sexe masculin.
C'est homme avec grand H.
C'est voilà. Ça. Donc pour dire que. Déjà, je partage tous les premiers avis parce que, quoi qu'on dise, le mariage, il est d'abord culturel. C'est un fait social. Maintenant qu'on décide de contracter, d'être polygame ou de rester monogame, ce sont des choix que les uns et les autres font par rapport à peut-être leurs obédiences ou à peut-être souvent leur pouvoir d'achat. Parce qu'il y en a qui sont limités par des moyens, voilà pourquoi ils ne sont pas polygames, sinon que derrière la tête, ils ont l'idée d'être polygame, mais ils ne peuvent pas. En tout état de cause, ce qu'il y a à retenir, c'est que la polygamie, le mariage en général, c'est une question de responsabilité. Et c'est cette question de responsabilité qui fait que dans des mariages dits polygames, comme on le dit, il y a beaucoup plus la recherche de l'équité qui ne vient pas de la part de l'homme. Par les femmes, du côté des femmes, qui ont dit, bon, cet homme, celui-ci a décidé de prendre plusieurs épouses, mais il n'aime pas juste envers ses femmes, entre ses femmes, donc ça pose un problème par rapport à l'épanouissement de l'une ou de l'autre. Mais il ne faut jamais oublier qu'il est d'abord culturel. Et ce sont des ressorts de nos valeurs qui, aujourd'hui, sont mis en avant. Peut-être il a parlé des conditions de dans lesquelles le mariage est contracté. Il y a cette éducation d'avant mariage qui peut-être n'est pas forcément perçue par tous, qui n'est pas bien faite et qui fait que même ce n'est même pas une question de polygamie, hein, seulement le mariage pose problème souvent. Nous sommes dans les cliniques juridiques, nous recevons des dames, ce ne sont pas forcément des femmes issues de couples polygames qui viennent nous voir pour des problèmes de divorce ou des problèmes de médiation. C'est souvent des couples monogames où les gens ont du mal à partir parce que après quelque temps, ce sont des antagonismes qui naissent dans le mariage au lieu qu'il y ait une complémentarité. Le couple n'est plus complémentaire, mais il y a des antagonismes entre l'homme et la femme. Et ce qui pose le problème, comme je l'ai dit plus tôt, de la préparation au mariage. Donc, ce n'est pas du côté des femmes seulement, parce que les femmes sont beaucoup plus, on les prépare à ça, mais nous, on ne prépare pas assez les hommes.
Juste pour compléter ce point-là,
oui, allez-y.
Si vous permettez, en fait, il y a la question de Lévira. Vous savez que souvent, un frère décède, il laisse une épouse avec 3, 4, 5 enfants, et dans ce cas-là, son frère se remarie avec l'épouse donc du défunt, et automatiquement il devient un polygame, alors qu'à la base il n'était même pas préparé pour ça. Mais l'avantage, je parle sous le contrôle du doyen, c'est que ça permet au moins de garder une certaine éducation pour les enfants au sein de la famille. Donc quand on y réfléchit, on peut toujours trouver en fait en tout cas des bons facteurs.
Oui, comme vous l'avez dit, si M. Diabaté peut mieux nous édifier sur ça.
Je le dis, oui. Exactement, tu sais, nous avons des choses importantes et très charmantes dans notre société, comme il a dit. Le Lévira, là, dont le professeur Dicot vient d'en parler, il relève d'abord de l'unité familiale, mais du sentiment d'appartenance du même sang.
C'est ça.
Mon frère, même père, même mère qui est décédé, tu as vu, il a laissé sa femme et ses enfants, et c'est une femme aussi. Elle est docile, ça va, elle respecte bien les règles du mariage, elle n'a rien fait. C'est la mort qui l'a séparée de mon frère. Bon, au lieu de la laisser avec ses enfants dans la rue, mais moi je la prends. Juste si c'est pour la marier et puis qu'elle reste. Ça, c'est, il y a l'harmonie de la famille qui reste. Parce qu'il n'y a pas de problème entre elle et moi, et il n'y a pas de problème entre elle et mon épouse également. Donc ce sentiment de pitié, ce sentiment d'amour familial, ce sentiment de vivre ensemble, oh, ça c'est quand même, c'est charmant, tout le monde
mais
veut ça.
Mais est-ce le cas actuellement?
Ah, c'est pourquoi je t'ai dit dès le départ, il faut contextualiser. C'est-à-dire actuellement, le monde a évolué. Nous avons une ouverture, on n'avait pas de téléphone fixe, tout Bamako là. Moi qui vous parle, il y a peut-être 30 ans en arrière, seulement dans les années 70-69 déjà, il n'y avait qu'un seul téléphone. Et c'était la poste, la grande poste de Bamako. Là. Quand on t'appelait là, c'est-à-dire le facteur, on l'appelle le facteur, hein, monsieur, il partait te chercher, c'était pas grand, on n'avait pas tous ces quartiers, on partait t'appeler pour dire, bon, demain là, il y a Fatim qui va t'appeler, viens répondre. Donc, tu as vu aujourd'hui, chacun a un téléphone dans la poche. Donc, c'est pourquoi il faut contextualiser vos débats. Ça va être très clair. Et là, si c'est la polygamie maintenant, aujourd'hui, au 21e siècle, en 2019, là, ça c'est avec les Fatim, les bijoux, les. Tu as vu? Bon, les papous.
Oui, ce débat-là est une
d'abord,
occasion
ça, c'est aussi
de parler de l'ancienne
Fatim,
école et de la nouvelle école.
Je vais
école.
Te dire, ça, c'est oui. Des noms que nous, on ne connaît pas d'abord. Dans le répertoire des noms de famille là,
oui.
Et les prénoms, là,
oui.
Ça, c'est des bijoux, papous, tout. Nous, on ne connaît pas ça. Ensuite, vous avez actuellement la jeune génération est laissée à elle-même et on fait ce qu'on veut. Ah non, 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 il faut respecter mon choix. Ah non, non, papa, moi j'ai dit, c'est vous, votre génération, vous dites non à papa, vous dites non à maman. Vous êtes prêt à assumer vos responsabilités depuis à 13, 14 ans. Ah ben, vous commencez à flirter, à draguer et puis à ne pas respecter les...
Mais est-ce la faute à la nouvelle génération seulement?
Bon, je ne sais pas, je n'accuse pas la nouvelle génération. Ah. Mais même tu as, je dis, je contextualise.
Bien sûr.
Avant, en notre En tout cas, à l'indépendance déjà, en 60 déjà, c'est-à-dire, il y avait à genoux, il y avait des punitions qui venaient renforcer l'éducation de l'enfant. Et dans la rue, et à la maison, mais et à l'école. Donc l'éducation était renforcée. C'était pour préparer l'enfant à affronter justement la vie. Donc, ça, c'est toutes les sociétés, que ce soit les Sonrailles, les Peul, les Senfo, les Bamba, c'était comme ça. Et là, c'est pourquoi on est fiers du Mali et du Malien à l'époque. Maintenant, quand on a un peu baissé les bras, parce que ces punitions-là, ces préparations-là qu'on faisait à l'homme, à la fille et au garçon, on a estimé, on a amené dans la langue de Molière, vous avez dit que non, c'est des violations des droits des enfants. Bon, or qu'il y a une autre manière, oui, dans la même langue de Molière, il y a méchant et il y a sévère, qui n'ont pas le même sens dans le dictionnaire.
Mais pour revenir à la polygamie de maintenant et d'avant.
Il y a des facteurs qui poussent à ça. Avant, la polygamie, elle était très bien perçue dans la société. Avant la polygamie, comme le professeur Dico l'a tantôt décrit, oui, il y a des facteurs qui obligent l'homme. Il y a des facteurs qui font que la femme, ta première femme même, propose à son époux de marier une... J'ai vu ça de mes yeux, une femme, et c'est elle qui a payé la dot, mais c'est elle qui a choisi aussi la femme qu'elle a mariée pour son mari. Donc, comment tu peux expliquer ça? Mais aussi, on en a vu qui ont versé de l'eau chaude sur leur... Voilà. Donc, tu as vu, quand tu veux parler des sujets de ce genre, il y a des aspects là-dedans qui sont très beaux, qui sont charmants, c'est ce que j'ai dit au début. Mais il y a des aspects aussi qui donnent à réfléchir. Donc tout ça là dépend de l'éducation de l'homme ou de la femme. Quand tu as une femme élevée dans un milieu vraiment harmonieux, ça va, et puis donc cet enfant-là va être un peu équilibré, qu'il soit garçon ou fille. Mais quand c'est dans un autre milieu où c'est clopin-clopin, donc papa, maman, là, cet enfant-là également, parce que le résultat du milieu, c'est l'enfant. On va voir que ça va être un enfant un tout petit peu pas bien équilibré. Bon, donc, et c'est ce que nous voyons actuellement dans votre temps là. Bon, tu vis seul avec ton mari, et puis il vient et te tue. On a vu des époux, ils sont seuls, il n'a pas deux femmes. Il a pris sa femme dans la voiture et il est allé la tuer avec un pistolet. On a vu un monsieur qui a trouvé sa femme dans le bureau, il l'a tuée. Et il n'a pas d'autres femmes. Mais comment est-ce que vous expliquez? Donc ça aussi, c'est la polygamie qui a fait ça. Ils ne sont pas polygames pourtant. Donc il y a des facteurs, il faut savoir analyser. Tout a une explication. C'est-à-dire, le phénomène, il est environnemental. Maintenant, et c'est à partir de l'évolution. Maintenant, nous avons des périodes où c'était beau. Et puis, mais aujourd'hui, nous assistons. Aujourd'hui, moi je connais des jeunes qui... Un très jeune, parce qu'il est de 60, il est de 72, ça c'est déjà, mais il est marié à trois femmes et il est en paix et c'est un ouvrier et il n'a pas de problème. Moi je le connais en tant que, parce que c'est des familles que je fréquente. D'accord. Pour connaître, parce que moi je fais de la recherche sur les comportements de la société, l'évolution de la société. Mais il y a encore des jeunes qui sont en train d'aller à la polygamie et ils n'ont pas de problème.
D'accord. Alors, oui, M. Traoré, M. Diabaté vient de nous parler de l'évolution de la société. Est-ce que vous avez eu à faire face à de telles situations où l'ancienne, avant et maintenant, ces genres de cas ont posé problème?
Oui, les questions d'adaptation. L'adaptation, vous savez, dans un couple, c'est beaucoup plus l'apprentissage à vivre ensemble qui pose problème souvent. Les gens, ils viennent dans le couple, souvent ce n'est pas... C'est avec chacun ses idées derrière la tête et tout ça. Mais il arrive que dans le couple, c'est une nouvelle réalité qui apparaît. Et en ce moment, cette apparence qu'on avait dehors et cette réalité qu'on a à l'intérieur commence à poser problème. Nous recevons beaucoup de femmes qui viennent dans nos cliniques par rapport à ces problèmes, parce qu'il m'a dit ça, il m'a promis ci, il m'a promis ça. Et maintenant que je viens, je ne vois rien. Et pire, si c'est la bastonnade, quand je réclame, oui, tu m'avais promis ça, aujourd'hui tu ne me donnes pas ça. Et quand elle en parle, elle est bastonnée. Ses enfants sont insultés, traités de tous les noms. C'est, malheureusement, c'est beaucoup dans ces foyers polygames. C'est beaucoup dans ces foyers polygames qu'on voit ça, malheureusement, actuellement. Actuellement, parce qu'on a beaucoup plus des leurs que les hommes ont fait croire aux femmes. Bon, je ne dirais pas que c'est pas le tout, mais malheureusement, il y a beaucoup de cas que nous recevons dans nos cliniques où nous sommes en face de femmes qui nous disent vraiment nous sommes déçus. Nous sommes déçus. Déçus de ce qu'on nous avait dit, promis, déçus de ce que nous constatons. Parce qu'on dit, bon, si tu viens, on va te loger quelque part et tu ne seras pas avec elle, tu ne seras pas dans la grande famille. Elle vient, on lui dit, bon, tu restes en attendant quelques semaines, le temps qu'on finisse.
Mais comme M. Diabaté l'a dit, avant, tout le monde était ensemble et ça ne posait pas de problème.
Oui, mais on a commencé à vivre dans les familles nucléaires il y a quelques temps. Je ferai peut-être un petit nez au doyen en disant que cette génération aussi est le fruit de l'ancienne génération. Nous avons reçu l'éducation que nous avons reçue, même si nous sommes un peu départis avec les technologies, nous restons quand même aussi le fruit de ces anciens qui, avec l'évolution des activités économiques, ne sont presque toujours pas là, qui nous ont aussi laissés à la société. Donc ça fait que il y a de ces choses que nous ramassons dans la rue. Si les parents avaient tous été à la hauteur aussi, certains jeunes aujourd'hui ne seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Vraiment, pour un peu dire ça.
Mais...
voilà. Oui, monsieur Diko, allez-y.
Vous savez, j'ai là un grand rôle parce qu'il s'agit de trouver le compromis. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que tout cela est relatif. Vous savez, ça dépend, c'est une question de moyens, c'est une question de communication, c'est une question de droit. Il y a dans nos sociétés le fait que la plupart des premiers mariages sont des mariages arrangés et d'autres sont des mariages obligés. C'est-à-dire que le consentement du garçon et de la fille, c'est un consentement qui n'est pas toujours demandé. Et la société, donc, sachant cela, vous autorise à prendre une deuxième, une troisième, une quatrième, voire une cinquième, ça dépend de vos obédiences, et bien le shérif le disait, selon qu'on soit musulman ou traditionnaliste, pur ou simple. Et donc, cela a incité certaines personnes à promettre des choses à une épouse qui n'est pas celle qui a été, pour la première fois, en tout cas, mariée, donc qui vient finalement en second lieu. Et dans ces cas-là, bonne chose, en tout cas, pour la seconde, qui était la copine du mari avant le mariage, mais peut-être mauvaise chose pour la première femme qui s'est retrouvée accompagnée, alors qu'elle aussi a été obligée d'une certaine manière à se marier, ou en tout cas dont le mariage a été arrangé. Donc ça, c'est un premier aspect. Mais au-delà, nous sommes dans un contexte urbain. Quand vous prenez le cas des commerçants, les commerçants ont besoin d'un certain nombre de personnes pour pouvoir commercer. Plus tu as des personnes en famille, plus tu as des petits revendeurs. Et dans ces cas-là, la polygamie, pour le cas des Soninké, dans beaucoup de cas, ça marche très bien. Mais après, ceci dit, quand on est un fonctionnaire et qu'on n'a pas un revenu conséquent et qu'il faut vivre en ville, la ville ayant ses contraintes de payer le loyer, de s'occuper de l'éducation des enfants, des crèches, des choses comme ça, les dépenses qui se multiplient. On a parlé, Ben Chérif l'a dit, hein, la téléphonie aujourd'hui s'est développée. Donc il y a des biens de la modernité au-delà de la téléphonie, donc des biens de consommation, qui sont très aimés par tout le monde. Et tout cela augmente les dépenses du foyer. Et nous sommes dans une société où très peu de femmes, en tout cas, sont salariées. C'est-à-dire que beaucoup se débrouillent dans le commerce informel, mais l'informel ne nourrit pas toujours. Et dans ces cas-là, nous sommes dans une société patriarcale où c'est l'homme qui est considéré comme étant le chef de famille. Et donc, en tant que chef de famille, il a la responsabilité de s'occuper des charges de la famille, c'est-à-dire le loyer, la restauration, le truc des enfants. C'est vrai, beaucoup de femmes contribuent, il y a même des femmes chefs de ménage maintenant, etc. Mais ça, c'est des évolutions récentes qu'on ne pourrait pas généraliser pour l'instant. Donc, quand on met ça bout à bout, on se rend compte qu'il y a différents facteurs qui expliquent. Maintenant, au sein du couple, il arrive qu'un homme soit polygame, qu'il ait très peu de moyens, mais qu'une des femmes soit une femme qui a suffisamment de moyens et qui prend en charge les dépenses de la famille. Ça aussi, on connaît. Donc, tout ça dépend de comment l'homme va se situer entre les femmes et de quelles responsabilités il va prendre. Monsieur, c'est Bengali, non, parlait du cas, Monsieur Traoré, pardon, Monsieur Traoré parlait du cas des promesses non tenues, effectivement. Et ça, ça rejoint ce que Monsieur Diabaté disait en termes de comment le mariage est contracté. Parce qu'en réalité, quand c'est l'amour by Viber, by Facebook, by WhatsApp, et donc on se voit, on saupoudre la vérité, et on finit par, sans même se connaître, à aller devant Monsieur le maire, ben, dimanche, le lendemain, on va avoir dire bonjour Monsieur le juge. Parce qu'avant, c'était, les gens se prenaient le temps de se connaître. On ne se mariait pas avec n'importe quelle fille, ni avec n'importe quel garçon. On disait oui, mais c'était un oui qui était bien réfléchi, où les Diabaté et autres avaient fait suffisamment de démarches, où on avait fait beaucoup d'enquêtes, et donc les choses étaient suffisamment ficelées. Mais à partir du moment où on n'arrive pas en fait à trouver le juste équilibre entre la modernité et ce que nous avons hérité comme valeur, nous devenons des chauves-souris. Et
mais
donc,
dans ce cas, où se situe la responsabilité?
Non, les en responsabilités, fait, pour moi, la responsabilité est toujours partagée. À partir du moment où vous refusez, le couple, la jeune fille et le jeune garçon refusent l'assentiment de leurs parents et donc se décident eux-mêmes, nous avons le droit, j'ai 18 ans, je suis majeur, j'ai le droit de faire ceci, de faire cela. Quand vous dites que vous avez le droit et que vous êtes engagé contre vase et marée, il faudrait assumer la responsabilité. Donc c'est une question de responsabilité parce que les gens oublient, aimer quelqu'un ne peut pas forcément être la seule garantie pour la réussite du couple. Au-delà de l'amour, il faut bien trouver des moyens pour pouvoir, en fait, au quotidien, survivre.
D'accord. Oui, vous voulez...
Mais comme pour dire tout de suite, pour emboîter, l'amour, ça s'entretient.
Absolument.
Ça s'entretient, ça se nourrit.
Oui.
Si sans, on ne peut pas mourir, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein? Il y a tout un tas d'ingrédients qui entrent en ligne de compte, qui font en sorte que le mariage, il tient. Mais le principal problème, c'est la communication.
C'est ça.
Aujourd'hui, le manque de communication. C'est vrai qu'on a tous les moyens à notre niveau, mais les gens communiquent très mal.
Exactement.
Communiquent très mal et ça pose des problèmes. Vous recevez des gens qui viennent vous dire, mon mari ne me fait pas ça, il ne me dit pas ça, il ne me donne pas ça. Mais quand vous appelez le mari pour une médiation, bon, lui, il a ses activités quotidiennes qui l'occupent jusqu'à un tel point où il a besoin aussi, quand il entre à la maison, qu'il soit sollicité pour savoir si des choses peuvent marcher ou ne peuvent pas marcher. Chacun dans son coin, la femme pensant qu'elle est refoulée, le mari pensant que la femme aussi a beaucoup plus d'occupations pour lui, comme on le dit en Bamananga, à Tikacha, à Lema. Donc chacun dans son coin se barricade.
Ouais.
Et au bout du compte, c'est un mariage qui va à la dérive, alors que juste des quelques échanges auraient pu permettre de comprendre ce qui ne va pas. Et malheureusement, on est dans cette situation. On a les téléphones, on a la télé, on a tout ça, mais on ne communique pas ou on communique très mal. Vous voyez.
Oui.
Et vraiment, c'est cette question de communication. Aujourd'hui, nous la vivons. Ce manque de communication, nous vivons ça dans les cliniques juridiques avec acuité. Beaucoup de couples sont à la dérive alors que vraiment juste la communication, si elle passait, on ne serait pas là.
Manque de communication. Alors, Monsieur Diabaté. Oui.
Oui, qu'est-ce que...
Oui, monsieur Traoré nous parle de manque de communication qui est également source de conflits dans ces couples-là.
Oui. Malheureusement, Fatih, malheureusement. C'est-à-dire, on dit que... Mais sans communication, mais il n'y a pas d'entente. Sans communication, la vie n'est pas bonne. On n'est pas heureux, en tout cas. Et donc, on ne peut pas vivre heureux, que ce soit en famille, que ce soit au travail... En tout cas, la vie des hommes ici-bas est basée sur la communication. Et donc, il faut savoir bien communiquer pour maintenir, en tout cas, la vie en harmonie. Parce que quand tu communiques bien avec... Et puis, informer est différent de communiquer. Ils n'ont pas le même sens. Et puis, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a communication quand il y a feedback. C'est-à-dire, je suis en train de parler en ce moment. Vous êtes en train de m'écouter religieusement. Oui. Et vous allez réagir. Il y a l'effet que ma parole fait sur vous, fait que vous allez me répondre et vous allez réagir. Mais malheureusement, ça va être le contraire avec les téléspectateurs. Eux, ils vont juste nous regarder. Et ils ont envie de nous poser des questions. Mais ils ne peuvent pas. Donc, ça devient en ce moment une information. Donc, communiquer et informer, ce n'est pas la même chose. Donc, mais actuellement, c'est la mode. Dans tout, moi, je n'ai pas vu un segment, en tout cas de l'administration, où tu vas aller s'ils ne mettent pas communication. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Or que nous avons avec nous ici un sociologue, mais il n'est pas sociologue qui veut. C'est une science. On l'apprend. La communication est une science. et qu'on apprend. Et donc, que ce soit à l'école du Toubab ou que ce soit en tout cas à l'école traditionnelle chez nous, mais la communication, elle s'apprend.
Mais vu que les couples polygames traversent ce genre de situation, quel est le rôle maintenant des chefs traditionnels, des religieux dans ce genre de situation?
Si on nous écoutait, il faut mettre au conditionnel. Nous avons un rôle si on nous écoute. Tu as un rôle, tu as une responsabilité si on t'est contact. Ben, si tu n'as pas appelé le professeur Diko, il ne vient pas. Mais il est appelé, il est là. Maintenant, moi, je suis un traditionnaliste, je suis un griot. Quelqu'un m'appelle pour me dire qu'il a des... tu viens me voir, Fatim, que tu as des soucis avec ton mari. Mais tu es venu me contacter. En ce moment, je me chausse pour essayer de trouver une solution à ton problème. Maintenant, si je ne suis pas sollicité, ce n'est pas parce que je suis griot. Maintenant, j'ai entendu que, voilà, moi j'habite à Bankoni, et puis j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes avec sa femme à Daoudabougou. Est-ce que je dois... Ah non, moi je suis un griot, bon, bonjour, et puis, est-ce que c'est comme ça? Et il faut attendre que tu sois sollicité, qu'on t'explique le problème. Tu fais ton enquête, et puis là, en ce moment, tu interviens, et là, on peut, encore au Mali, difficilement un griot vraiment échoue dans sa démarche. Maintenant, les musulmans, c'est la même chose. Parce que quand le couple, ils sont d'accord, ils viennent voir les religieux, soit à l'église ou à la mosquée, on les contacte, ils vont vous parler justement des règles et principes, tu vois, de la religion en question. Et donc, si vous respectez ces principes et ces règles, donc ils vont officier et le mariage, mais en vous procurant les conseils selon la Bible ou selon le Coran. On va vous dire, voici ce que le Coran a dit, voici ce que la Bible a dit. Maintenant, après eux, pour rester perpétuellement jusqu'à la mort en harmonie avec ta femme, avant...
Ou avec tes femmes.
Ou avec tes femmes, avant, en tout cas, les hommes, avant, ils avaient toujours des griots comme conseillers. Où ils avaient des vieilles personnes dans le village ou dans le quartier comme conseillers. Les femmes, comme les hommes, se faisaient toujours conseiller par des vieilles personnes et par des griots. Et donc, actuellement, on a des jeunes filles. Moi, je connais des jeunes qui sont dans le mariage, mais qui se font conseiller par des griots. Et qui se font conseiller par moi, même aujourd'hui, non pas aujourd'hui mercredi, mais demain jeudi, ben moi je vais aller chercher une femme, elle a des soucis avec son mari, elle est partie dans sa famille, mais je vais aller la chercher pour la ramener dans le... Ça c'est demain jeudi que j'ai programmé pour demain jeudi. Malgré que je sois fonctionnaire, très occupé, mais je joue encore ce rôle-là. Parce que, si je suis chrétien, c'est en équilibre avec la Bible. Si je suis musulman, c'est en équilibre avec le Coran. Si je ne suis ni l'un de ceux-ci, bon, c'est en équilibre aussi avec la société traditionnelle. Donc, d'accord, c'est toujours faire du bien à arranger les mariages.
D'accord. Alors, M. Diko, s'il y a beaucoup de couples polygames qui font face à des problèmes, à des difficultés, quels peuvent être l'impact de cette situation-là sur les enfants?
Alors, l'impact sur les enfants, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'avant, quand il y avait la polygamie, chacune des épouses prenait soin des enfants de sa co-épouse. Donc, ça permettait en tout cas de consolider les liens. Et à tes enfants, on ne te demandait jamais... tes enfants ne s'adressaient pas à toi pour leurs besoins quotidiens. Donc ça, on n'arrive pas à le faire en ville maintenant parce que c'est des familles nucléaires, comme M. Traoré l'a dit. Nous sommes dans un contexte urbain qui répond à d'autres besoins. L'impact, c'est d'abord, je pense, ça crée un déficit de lien entre les enfants eux-mêmes. Ça crée des querelles au quotidien. Et puis, ça peut impacter sur leur éducation. Il y a certains enfants qui vont fuguer. Et ça peut impacter même leur éducation parce qu'il y a des enfants qui n'arrivent plus à se concentrer à l'école parce qu'ils pensent tout le temps en fait, à des petites disputes au sein des couples et des foyers. Et donc, ça crée des traumatismes psychologiques. Et plus tard, ces enfants vont devenir des adultes, ils vont se marier. Alors, si le problème était résolu par leur papa, par la violence, il y a de fortes chances, je parle sous le contrôle de Traoré, que cette violence soit reproduite par les enfants eux-mêmes sur leurs épouses. Ça veut dire que les conséquences sont énormes. Mais au-delà, s'il y a un problème et que le mari a une préférence pour une épouse, il peut aussi prendre soin des enfants de l'épouse préférée et mettre au second plan les enfants de l'autre. Et cela peut impacter sur leur éducation. Ces enfants peuvent être devenus des enfants de la rue, en tout cas peuvent être cooptés par tous les réseaux et peuvent se laisser envahir aujourd'hui par le tramadol qui est un fléau au Mali, qui pousse les jeunes en fait à être dans des situations en tout cas inexplicables. Voilà, donc entre autres quoi.
D'accord. Alors, M. Traoré, oui, allez-y.
Je parlerai sur dans ce cadre-là des conséquences, par exemple, d'un divorce. Parce que le sociologue en a parlé beaucoup plus du général. La suite d'un divorce, par exemple, dans un couple polygame, on confie la garde de certains enfants au père qui a une autre épouse. Et en ce moment, c'est souvent le calvaire pour ces enfants confiés à cette dame. Au vu de tout le monde. Le père, parce que bon, celle-là est la préférée, il ne peut lui refuser quoi que ce soit. Ses enfants viennent, elle les maltraite. Il ne peut agir en leur faveur. Et tous, sauf fait de Dieu, sont appelés à devenir des délinquants. Les petits qui peuvent rester avec la maman, qu'on confie à la maman parce qu'ils n'ont pas un certain âge, eux aussi, leur prise en charge par le père pose problème. Parce que il doit leur verser une pension alimentaire qui est calculée sur ses avoirs et son revenu. S'il n'est pas assez conséquent, on peut dire pour chaque enfant, 5000 francs par mois ou 10 000 francs par enfant, si c'est un enfant, si c'est deux enfants. Imaginez une dame à laquelle on confie deux enfants et on lui donne 10 000 francs pour pension alimentaire. À quoi est-ce que ça peut subvenir? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment ses enfants deviendront? Voilà, des conséquences. Donc, ce sont des situations que nous vivons. C'est la loi qui le dit. C'est une application stricte de la loi. Mais en même temps, elle a des conséquences fâcheuses pour nos familles. Ce n'est pas seulement que des familles polygames, mais c'est plus compliqué avec les familles polygames. Quand il y a un divorce, par exemple.
D'accord. Alors, nous allons demander à M. Diabaté de mieux nous édifier sur ces conséquences-là, plus précisément dans les couples, des divorces de couples polygames.
Bon, c'est des choses aujourd'hui, ça nous fait honte. Ça nous fait honte, nous, quand on voit ça, parce qu'on a toujours su gérer nos problèmes. Parce que, comme je le dis, et comme le sociologue l'a dit, il y a les facteurs. La manière dont le mariage a été d'abord vraiment contacté. Dès le début, comment est-ce que ce mariage-là même a été conçu? Est-ce que c'est fait entre les familles? Et si c'est fait entre les familles, si jamais, on met au compte, si jamais ils n'arrivaient pas à s'entendre et qu'ils doivent se séparer, on va le faire avec la manière douce. Et qui aura moins d'influence négative sur les enfants et moins d'influence négative même et sur même la femme divorcée. Parce que nous, c'est comme ça. Il faut savoir maintenir l'équilibre social. Donc, on avait prévu des mécanismes de fonctionnement de notre société et qui prenaient en compte la dimension jurisprudence. Mais malheureusement, actuellement, nous avons le droit, et puis voilà, le droit est le pur droit, et on ne parle jamais des devoirs. Donc ça, c'est aussi, c'est un problème de communication. Avec les plus hautes autorités, on ne parlera, tu n'entendras, et on a créé que des services pour le droit. Mais personne ne te parle le devoir. Et tant qu'on te parle le droit, si on ne te parle pas le devoir, ça c'est une faute grave dans la langue de Molière.
D'accord.
Et dans la formation même de nos intellectuels. Parce que si tu dis droit seulement, il y a devoir. Si tu dis devoir seulement, il y a droit. Les deux, tu ne peux pas les séparer. Mais on a en ce moment les services qui sont créés sur le plan législatif, et réglementaire, et juridique. On a créé des services seulement pour les droits. Oui. Mais tu ne verras jamais où on parle de devoir.
D'accord. Oui, M. Traoré, vous voulez réagir, oui?
Oui, juste pour continuer encore avec ce qu'il a dit.
Oui.
C'est qu'il y a des acteurs dont on ne parle pas dans nos mariages. Mm-hmm. Quand, bon, furuboloma, on y fait où. Ce sont des personnes sur lesquelles on devrait s'appuyer. Malheureusement, quand on reçoit une dame qui a... On lui demande, est-ce qu'il y a comment on y fait furuboloma? Est-ce qu'il y a une fois...
Les
démarcheurs. On dit, ah, bon, il ne sera bien. Mais souvent, quand on appelle le mari pour une médiation, on se rend compte qu'elle n'a pas... La dame a suivi les conseils de ses amis.
Ouais.
De ses amis qui l'induisent souvent en erreur, qui font ça parce que, voilà, moi, elle n'était même pas d'abord pour le mariage polygame. Donc, tout ce qui peut advenir dans le mariage polygame, elles ne peuvent que l'empirer.
Donc, l'influence des proches.
Et ça joue encore.
L'influence
des copines.
Souvent, les mamans ne sont pas pour, mais elles se sont souvent, mais la plupart du temps, ce sont les copines.
Et la rue aussi.
D'accord, oui, monsieur Dico.
Je voudrais dire que, malheureusement, nous sommes dans une société maintenant où le rapport à l'argent est très développé. Donc il y a un peu la cupidité qui pousse beaucoup de jeunes dames à créer des situations de polygamie. Alors qu'au début, l'homme même ne voulait pas. Et donc quand c'est des mariages comme ça par cupidité, il va sans dire que les déceptions vont vite s'installer, parce que c'est là où vient justement la question des promesses dont parlait Traoré en début. Ça c'est un élément important, mais nous avions quand même les grandes familles. C'est vrai que dans un contexte urbain c'est difficile d'entretenir une grande famille, mais quand il y avait un problème au sein d'un couple, au moins les grands-parents pouvaient décanter la situation. En tout cas en discutant avec chacun des membres du couple et puis ensuite entre les deux. Et même comme maintenant les gens vivent seuls, dans un entre-soi, accompagnés d'une aide ménagère qui est pratiquement d'ailleurs une deuxième épouse, hein, on ne le dit pas comme ça, mais une des conditionnalités en tout cas de beaucoup de nouveaux mariages, c'est d'avoir une bonne aide ménagère. Sinon, voilà, et qui finalement va remplacer dans les activités l'épouse, à telle enseigne que, bon, mais si elle est belle et qu'elle est bien, elle prend plus soin d'elle. Et contrairement à la femme qui, à un moment donné, tombe dans un laisser-aller, bon, le corps vieillissant avec des enfants qui viennent au quotidien, bon, le mari peut aussi avoir développé des comportements déviants. Nous, on est en train d'ailleurs d'écrire un truc sur l'amour d'une servante et qui évoque justement ces questions-là.
D'accord. Oui, alors, monsieur Diabaté,
oui.
Vu que le temps nous rattrape,
oui.
Comment mieux organiser un foyer polygame dans... actuellement, la nouvelle génération. Vu qu'avant, la gérance était très bien. Mais maintenant, comment mieux organiser ces foyers polygames?
Oui, les jeunes, actuellement, pour mieux gérer la polygamie, moi, je vais inviter et les filles et les garçons à s'approcher davantage des vieilles personnes, en plus de leur père et de leur maman. Mais il y a d'autres personnes, parce qu'au Mali, ici, on a plusieurs pères. Tous ceux qui ont l'âge de ton père, c'est ton père. Mm-hmm. Donc ça, c'est aussi un acquis. Mm-hmm. Il faut l'exploiter. Tous ceux qui ont l'âge de ta mère sont tes mamans. Il faut l'exploiter. Elles ne sont pas toutes mauvaises. Donc, moi, je pense que la jeune génération doit approcher beaucoup plus, vraiment, les vieilles personnes pour avoir beaucoup de conseils. Et ensuite, ils doivent aussi essayer, entre eux-mêmes, de mieux communiquer, les couples qui communiquent, qui installent entre eux vraiment des moments d'échange, vraiment pour mieux se comprendre et mieux gérer leur mariage.
Oui, alors vous, monsieur Dico.
En ville, si les gens doivent être polygames, mm-hmm. ce qui est consacré par notre code de mariage, hein, c'est un droit, qu'on ne mette pas les femmes, je pense, dans la même maison, même pas dans le même quartier. Ça, c'est une des recommandations.
Une des recommandations. Et vous, M. Traoré?
Moi, je dirais que c'est aussi... Il faudrait surtout... Bon, je vais un peu ramasser parce que je ne vois pas ce que je pourrais ajouter à partir du moment où nous avons presque tout dit. C'est-à-dire que renforcer la communication, surtout se chercher de bons confidents. Ce bon confident entre pour les hommes comme pour les femmes, pour leur permettre de les encadrer. C'est ce qui manque beaucoup.
Pour rejoindre les propos
de M. Diabaté. C'est vrai d'avoir des pères et des mères, mais d'avoir des confidents. Tout père n'est pas confident, toute mère n'est pas confidente. Le confident, c'est la personne à laquelle on raconte tout et on sait qu'elle va nous dire il faut faire comme ci, comme ça pour s'en sortir. C'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui à beaucoup de couples. D'accord. Voilà.
Okay. Merci beaucoup et cela met fin à ce débat sur la polygamie au Mali. Un grand merci à nos invités, Bremaili Diko, sociologue, Jacaria Traoré de Clinique d'Emesso, Ben Chérif Diabaté, traditionnaliste. C'est une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Mamadi Keïta. La régie doit être assurée par Salim Djouara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halo de Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.